Vous écoutez Aligre FM 93.1. De l'huile sur le jeu. Une chronique par Antoine Marsay.
Le capitaine aux deux brassards. Lorsqu'on jette un œil à la longue liste des capitaines de l'équipe de France de football, certains noms ressortent. Didier Deschamps, Zinedine Zidane, Michel Platini, Marius Trésor. D'autres n'évoquent rien, apparaissent comme anecdotiques dans l'histoire de ce jeu. Mais en s'y penchant plus précisément, un nom, un homme, peut prétendre avoir joué un rôle notable dans l'histoire. Mais pas celle du football. L'autre, avec un grand H. Ce nom, c'est Alexandre Villaplane. Pour protéger son anonymat, nous l'appellerons Alex. Né en Algérie française en 1904, un soir de réveillon de Noël, Alex arrive en France métropolitaine à 7 en 1918, où, malgré sa taille de lutin, il va éclore dans le club local et intégrer petit à petit le milieu du football français, alors encore amateur. Très tôt, il montre de remarquables dispositions à monnayer son activité par tous les moyens. Il est attiré par les mondanités et commence à fréquenter plusieurs malfrats notoires du sud de la France. Il progresse, gravit les échelons et intègre l'équipe de France de football. Débarqué au Racing Club de France, une équipe de la capitale, il devient dans le même temps gérant d'un bar et continue d'entretenir une hygiène de vie et des fréquentations douteuses. C'est en qualité de capitaine de l'équipe de France qu'il embarque vers l'Uruguay pour la Coupe du Monde 1930 avec le reste du groupe, à bord du navire SS Conteverde. Le nom de ce vaisseau trouvera un écho particulier dans la vie d'Alex. Les Français sont clairement en dessous des autres équipes et perdront leurs trois matchs de poule. Retour à la maison express. Mais en rentrant, Alex fait des siennes. Impliqué dans plusieurs arnaques, dont un trafic de faux billets de loterie, une escroquerie hippique et la corruption des joueurs d'une équipe adverse, il est successivement viré du RCF, puis de Nîmes et d'un petit club bordelais, 4 jours seulement après son transfert. Chanceux ou malin, il s'en sort à chaque fois grâce à des non-lieux ou évite la prison de justesse en faisant appel. Alors que sa femme, lasse de ses excès de zèle, le quitte en 1935, il s'installe à Paris et s'acoquine avec le milieu parisien. Mais à partir de là, le parcours d'Alex n'a plus grand-chose à voir avec le football. En 1939, il est mobilisé dans l'armée française pour faire face à l'invasion allemande et, suivant la déroute tricolore, il est emprisonné par l'ennemi, mais parvient à s'évader au bout d'une semaine. Fauché, il revient à Paris et braque un magasin de vêtements. Nouvel échec. Il prend 6 mois. Mais à sa sortie de prison, en 1941, il intègre, grâce à ses connaissances mafieuses, la section française de la Gestapo, dite la Carlingue, participant activement à la grande entreprise de spoliation des biens juifs au profit de l'occupant nazi. Plusieurs fois, son avidité et son penchant pour l'arnaque faillirent le perdre. Comme lorsqu'il détourne un collier de perles destiné à un gradé de la Wehrmacht pour l'offrir à sa femme. Il évite de peu la déportation. Il se fait aussi attraper par des agents du renseignement des FFL lors d'un passage en province et balance manu militari tous les membres de la Carlingue. On l'a bien compris, Alex la joue perso. En 1944, tandis que l'Allemagne nazie est en passe de perdre la guerre, le patron de la Carlingue, Monsieur Henri, crée les brigades nord-africaines, une unité paramilitaire traquant et exécutant les résistants dans la métropole. Alex est fait lieutenant. Il change définitivement de brassard. L'escroc collabo devient ainsi bourreau, ordonnant lui-même l'exécution de 52 résistants dans un village de Dordogne, le lendemain du massacre d'Oradour-sur-Glane. La misérable histoire d'Alexandre Villaplane rejoint la grande. Après le débarquement et la libération, les ex-membres de la Gestapo française se terrent mais sont tous rapidement retrouvés, comme Alex, arrêté en se rendant au bar. La défense collective prônée par les membres du groupe est rapidement mise à mal par la pression de la justice. En effet, les collabos ne sont pas les maîtres du catenaccio. Ça veut dire cadenas en italien. Alex est donc inculpé, présenté par le procureur comme un escroc né, par son avocat comme un idiot, avant d'être fusillé le 27 décembre 1944. Ainsi s'achève la tumultueuse vie du médiocre Alexandre Villaplane, du SS Conteverde à la section française de la Gestapo, il aura successivement joué pour son pays, puis pour l'occupant, guidé par l'avidité et le déshonneur. Adepte des buts contre son camp, il a fini par tomber sous les balles. Brel avait d'ailleurs une formule pour les hommes comme lui. « Chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. »